Bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver et de continuer sur cette bonne série de Jacques. Alors je crois que de ce que j'ai compris, vous avez fini Jacques et là on revient, c'est ça? Donc remettre un petit peu, donc c'est un chapitre que vous n'avez pas encore vu, Jacques chapitre 4, les versets 1 à 12. Et donc Jacques est vraiment un personnage très intéressant. Il dénote un petit peu par rapport aux autres épîtres que l'on peut connaître, mais sa particularité, c'est qu'on va retrouver un peu le style de son demi-frère. Vous vous rappelez qui est le demi-frère de Jacques? C'est qui? J'ai pas entendu. Jésus. Donc rappelons que nous pensons que Jacques est le demi-frère de Jésus, donc je dis demi-frère puisque lui il est né de Joseph et de Marie, et donc il, vous avez vu qu'il avait suivi Jésus, et on sent un peu le style de Jésus dans la façon dont il va parler, dans la façon dont il va présenter des choses, donc beaucoup de parallèles avec les paroles de Jésus. Et ici dans Jacques chapitre 4, il va traiter quelque chose de très intéressant et qui fait directement suite à ce que vous aurez vu dans Jacques chapitre 3. Alors, est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce qui avait été vu dans Jacques chapitre 3? C'est un peu loin, hein? Mais il va nous parler, si je vous dis, c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ça souille le corps, ça enflamme le cours de la vie. Ça parle de quoi? La langue. On dirait pas, hein? C'est un feu. C'est comme ça que Jacques va parler de la langue. Il va parler de la langue. Il connaît les méfaits de ce petit organe. Tout petit, comme il dit. Et pourtant, on a du mal à le contrôler. Et ça fait des dégâts. Évidemment, il va pas parler de la langue en soi, hein, même si on s'enlève la langue, notre cœur ne change pas, mais c'est nos paroles. Et vraiment, ça, quand vous regardez la façon dont Jacques parlait de la langue, il savait que c'était quelque chose de dangereux. Regardez ce qu'il va dire au verset 6 du chapitre 3. Donc c'est un feu, c'est le monde de l'iniquité, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Waouh ! Et il va terminer en disant, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Et je pense que vous et moi, nous savons combien les paroles peuvent blesser. N'est-ce pas ? Combien les paroles peuvent briser des vies, des destinées, des personnes. Et ça dans les familles, et ça dans le travail, et ça dans l'église. Alors, notre ami Jacques, il ne lésine pas sur notre prise de conscience du danger qu'il y a à mal utiliser sa bouche. Il est très très violent pour que les gens avec qui il parle prennent conscience et se disent « Ah, il y a quelque chose à faire là-dessus ». Combien d'églises, les amis, se sont divisées, séparées à cause des paroles des autres? Combien de couples ont été brisés à cause des paroles de l'un sur l'autre? Les paroles, pas forcément les coups, pas forcément l'attitude, mais les paroles violentes, virulentes, qui attaquent, qui détruisent. Tu es ceci, tu es qu'un bon à rien, je sais même pas pourquoi je me suis marié avec toi. Non? Je sais même pas ce que je fais dans cette église, ce sont tous des incapables. Juste la parole. Une personne un jour m'a dit, ben, je suis parti de mon église, ça fait 25 ans que j'y suis. Je dis, mais pourquoi tu es parti? C'est quand même... Parce que le pasteur m'a dit que je suis vieille. Oh. Et je pouvais plus faire cette activité. La langue, juste. Ça l'a cassé. Je suis trop vieille. Donc Jacques sait. Et Jacques veut faire prendre conscience. Jacques veut que nous ne considérions pas les paroles comme juste quelque chose de « oui, je peux dire ce que je veux ». Il dit, vous savez, c'est comme une source d'eau. Une source d'eau, il faut pas que ça ait deux conséquences, une bonne et une mauvaise. Par la même langue, la même bouche, on bénit le Seigneur, gloire à Dieu. On chante des louanges, on dit des bonnes choses, on donne des bons messages. Mais par la même langue, par la même bouche, on maudit notre frère. Il a dit, il faut pas qu'il en soit ainsi. Et donc, voilà le chapitre 3. Il va ensuite parler de la sagesse qui est constructive. La sagesse qui, contrairement à la sagesse humaine, détruit, qui est terrestre. Et comment il dit? Il dit, c'est des gens qui sont dans la jalousie, dans l'esprit de rivalité. Versets 14 et 15. Cette sagesse-là, elle vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. Et il dit, l'autre partie, chapitre 3, verset 15 à la suite, il dit, la sagesse d'en haut, elle est tout d'abord pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans prix, sans parti pris et sans hypocrisie. Il dit, voilà, les amis. Voilà deux sagesses différentes. Voilà deux attitudes différentes avec votre bouche. Et alors, au chapitre 4, autant là, avec le chapitre 3, il nous a montré les symptômes, il nous a montré les conséquences, il nous a montré le danger. Au chapitre 4, il va nous aider à comprendre le pourquoi. Il va nous dire d'où ça vient, ces attitudes mauvaises. Qu'est-ce qui inspire cela? Et il va nous rappeler un avertissement. Il va nous replacer devant Dieu. Et ensuite, en troisième partie, il va nous donner une solution. Donc, il va d'abord nous dire le pourquoi, chapitre 4, d'où viennent toutes ces tensions, ces luttes, ces combats. Il va ensuite nous donner un avertissement, deuxième partie, à partir du verset 4. Et ensuite, au verset 7, il va nous donner une solution pour faire face à toutes ces tensions, à toutes ces luttes, à tous ces combats qui peuvent saisir tout chrétien et toute chrétienne. Donc, il commence tout de suite par une question, et donc, je vous propose justement de plonger là-dedans. Et pour nous, en tant que même si c'est 2000 ans auparavant que Jacques a écrit ça, c'est bon pour nous. Qui aime les conflits? Qui aime les tensions, que ce soit dans les couples, dans les relations de travail? Moi, il y a des personnes dans notre église, ils sont tellement, il y a tellement de tensions autour d'eux, leur travail, qu'ils ne veulent même plus travailler. Ils disent, j'ai pas envie d'aller au travail, je sais que ça va encore mal se passer. Il y a des gens qui viennent même plus à l'église parce qu'ils se disent, à chaque fois que je vois telle personne, on est en tension, on est en lutte. Il y a des personnes qui ne veulent pas rentrer à la maison le soir parce qu'ils se disent, j'ai encore peur de ce que mon conjoint va me dire. Et les tensions, les luttes sont là, et Jacques veut que nous comprenions d'où elles viennent, et il veut qu'on puisse les traiter comme elles doivent être traitées, avec sérieux et radicalité. Trois parties. D'où ça vient, le pourquoi, un avertissement et des solutions. Verset 1. D'où viennent, donc chapitre 4, d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous? Qu'est-ce qui fait que ça vient? Qu'est-ce qui fait que ça monte et que cet échange de tensions, ces disputes, ces paroles critiques envers l'autre, cette attitude insatisfaite qui critique, d'où ça vient? Et il le dit ici. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et très intéressant, quelle que soit la situation, nous on va dire toujours, évidemment, quand la tension vient, quand je suis en tension avec quelqu'un, forcément, la faute est de quel côté, les amis? De l'autre, hein, n'est-ce pas? c'est l'autre qui a tort, de toute façon, quel que soit le sujet, non? Ben c'est lui, c'est à cause de lui que je suis en tension, c'est à cause de lui que je suis fâché, non? C'est à cause de lui, il n'avait pas qu'à faire ça, moi j'avais déjà dit qu'il fallait pas faire ça comme ça, il l'a fait. Bien sûr que je suis fâché. Il n'a pas fait ce que je pensais qu'il devait faire, ou il a eu une attitude que je pensais qu'il ne devait pas avoir. Eh bien, voilà pourquoi je suis fâché, voilà pourquoi j'ai des tensions, voilà pourquoi nous sommes insatisfaits. Eh bien, Jacques, il dit non. C'est pas parce qu'il n'a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse, c'est à cause des passions qui sont en toi. Voilà ce que la parole de Dieu va nous dire. Quand vous voyez deux personnes en tension qui se disputent, la parole de Dieu nous dit, ça vient de vos passions qui combattent dans vos membres. Passion est donnée en grec, désir charnel. D'autres versions, la Sommeur dira désir égoïste. La Darby utilisera un terme plus poétique, les voluptés. La parole de vie dira les désirs mauvais. désirs mauvais, désirs charnels. Les mauvais désirs qui sont en nous vont créer en nous cette insatisfaction qui vont créer la tension, la dispute avec l'autre. Donc ce n'est pas quelque chose de bon. Une des fois où ce mot va être vu dans la parole, c'est quand vous vous rappelez, Jésus va donner les quatre terres. Il y aura quatre types de terres et chacune va recevoir la parole et chacune va réagir différemment. Et il va dire ces quatre types de cœurs. Et à un moment, il va dire, il y en a un qui ne va pas recevoir la parole parce qu'elle va être étouffée. Elle va être étouffée par les soucis des richesses et par les plaisir de la vie, et c'est le même terme. Les mauvais désirs en nous peuvent étouffer la parole de Dieu. On peut connaître ce que Dieu veut, mais mon mauvais désir va étouffer la parole de Dieu. Et là, il va dire, les conséquences sont là, c'est que vous désirez quelque chose et ne vous le possédez pas. Vous désirez quelque chose, là encore, c'est un terme... verset 2, épitouméo, qui veut dire convoiter, qui rechercher des choses qui sont défendues. D'autres versions vont dire vous convoitez. Donc ça veut dire que dans votre cœur, lorsque vous vous laissez conduire par vos passions et vos désirs, vous allez vous mettre en tension avec la personne et vous allez désirer des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont pas forcément bonnes. Et notre ami Jacques, il va être fidèle à lui-même, vous avez vu, et il va utiliser des termes très dur pour décrire quelqu'un qui se laisse conduire par ses passions. Et regardez le terme qu'il va dire. Verset 2, juste après. Vous êtes meurtrier. Waouh! Attends, Jacques, j'ai tué personne, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Quand même, meurtrier. En général, dans les églises, on se tue pas, non? Et jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Ça veut dire être fâché de ne pas avoir ce que quelqu'un d'autre a. L'autre, il a ça, ah, ça me crispe, ça m'attriste qu'il ait ça, lui, et pas moi. Vous êtes jaloux. Et ça, c'est, vous vous réjouissez pas de ce que l'autre a, mais au contraire, vous vous attristez de ce que vous n'avez pas. Et alors, le terme meurtrier, ça nous rappelle un terme de Jésus. Vous vous rappelez, il a dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère devrait recevoir la même punition que le meurtrier. Et là encore, Jacques et Jésus raisonnent ensemble parce que Jésus regarde le cœur. Peut-être que tu ne vas pas passer à l'acte. Peut-être que tu ne vas pas frapper ton prochain. Peut-être que tu ne vas pas le tuer. Mais ton cœur désire sa destruction. Ton cœur désire sa disparition. Ton cœur ne veut plus de celui-là et veut son malheur. Le jaloux, ce qu'il veut, il veut ce que l'autre a. Donc même s'il pouvait l'acquérir, il le ferait. Jacques est dur parce qu'il veut que dans notre cœur, ce soit propre. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Parce que c'est du cœur que proviennent les adultères, les meurtres, les mauvais désirs, les calomnies, les faux témoignages. Il sait que c'est le cœur qu'il faut attaquer. Il faut que notre cœur soit pur. Jacques est soucieux d'une pureté entière pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il veut nous faire comprendre. Et je prie vraiment, et nous prions, que Dieu, cet après-midi, interpelle nos cœurs et que les mots de Jacques, qui sont des mots difficiles, résonnent dans nos cœurs, pour pas qu'on soit juste à entendre et à se dire « Ah oui, je connais ce texte », mais en disant « Dieu te considère comme un meurtrier si tu veux le mal de l'autre, même si tu ne le fais pas. » Ne laisse pas cette racine d'amertume se développer dans ton cœur. Parce que, rappelons-nous du chapitre 3, parce qu'en laissant cette racine d'amertume se développer, la destruction n'est pas loin. En Galates chapitre 5, Paul dira, si vous vous mordez et vous vous dévorez, encore des termes assez sympas, entre vous, entre chrétiens, là il parle, eh bien vous finirez par vous détruire. Paul, Jacques, Jésus sont convaincus que si nous ne faisons pas attention à ce que notre cœur développe par rapport à l'autre, eh bien la destruction n'est pas loin. La destruction n'est pas loin. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Il continue aussi en disant, ben, ces désirs et ces luttes, finalement, eh bien, ils proviennent aussi d'un désir de demander des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Alors il dira, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est intéressant. Et là, ça rejoint la notion d'orgueil et d'humilité. Quand nous avons besoin de quelque chose, et reprenons l'idée du jaloux, puisque c'est aussi ce que Jacques développe. Quand je désire quelque chose et que je vois que les autres l'ont, plutôt que de chercher à obtenir ce qu'ils ont et que moi je n'ai pas, demandons à Dieu. J'ai bien aimé le témoignage de Clément qui décrit un petit peu ça. Demande au Seigneur, il dit, Seigneur, si je l'ai, super, si je l'ai pas, super. Mais je veux te laisser, hein, je me trompe pas Clément, c'est comme ça, je veux te laisser être le maître, Seigneur, de me donner ce que tu penses être bon. Je veux te laisser faire les choses. Et quelles que soient les situations, demandez au Seigneur. Quelles que soient les contraintes, que ce soit une situation professionnelle. Seigneur, avec ce collègue, c'est difficile. Seigneur, sur ce dossier, c'est difficile. Je te demande de l'aide, Seigneur. Je m'attends à toi. Je dépends de toi. Et le fait de demander, c'est aussi reconnaître qu'on a besoin d'aide, n'est-ce pas? Aller demander de l'aide, c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ne pas demander, bah, c'est se dire, je vais pouvoir m'en sortir tout seul. Moi, j'ai pas vraiment de besoin de demander. Eh bien, Jacques, il dit, demandez parce que vous avez besoin d'aide. L'humilité. Et ensuite, il précise, il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Vous avez des luttes. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre passion. Et donc, il précise, il dit, c'est bien de demander, c'est une bonne attitude, mais le contenu de votre demande, il faut aussi qu'il soit juste. Il faut aussi qu'il honore Dieu. Et c'est là, les amis, que nos prières doivent être analysées. Est-ce que nos prières ont pour objectif essentiellement notre bénédiction personnelle? Ou est-ce que nos prières ont pour objectif la gloire de Dieu? Que nous puissions prier, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Alors, Clément, je me permets de prendre ton exemple, qui est un bon exemple, mais que si je demande une promotion, que ce soit pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour la gloire de Dieu. Que ce soit pas juste parce que j'ai envie d'être promu, qu'on me reconnaisse. Alors, je sais que Clément n'a pas fait ça parce qu'on partage, on discute et on prie ensemble, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Que ce soit pas juste pour mon propre bien. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez de satisfaire vos passions. Donc, il sait que des gens, nous pouvons prier pour notre propre bien seulement. Pour notre propre désir, on va dire, ah ben j'ai prié, merci Seigneur. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Nous vivons pour Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous voulons. Et c'est pour ça que dans Notre Père, vous savez, hein, le Notre Père, il commence par des prières pour la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'abord toi, Seigneur, et ensuite donne-moi mon pain quotidien, et ensuite pardonne-moi mes offenses, et ensuite ne m'induis pas en tentation. Mais d'abord, je veux ta gloire, Seigneur. C'est ce qui compte pour moi dans cette situation. Et alors, après avoir fait comprendre d'où viennent ces tensions, d'où viennent ces luttes, voilà, regardez votre cœur. Ne regardez pas d'abord à l'autre. On rejoint encore Jésus qui nous dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. On voit toujours ce que l'autre a fait, hein, c'est facile, hein, facile. Mais soyons durs avec notre propre péché. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et après avoir pris cela, pour avoir pris le temps de nous dire, voilà, regardez votre cœur, regardez ces désirs charnels qui combattent en vous, regardez ces désirs charnels qui sont en vous, même quand vous êtes chrétien. La différence, c'est que vous pouvez les traiter. Il va continuer à nous avertir. Et il va prendre un temps où il va nous positionner devant Dieu. Parce que lorsque nos passions et nos désirs viennent, c'est notre propre bien qui vient et c'est nous-mêmes que nous voyons et on voit ce que l'autre a fait de mal envers moi, on voit ce qu'il m'a dit à moi et on voit mon manque à moi. Mais ce que Jacques veut, c'est qu'on se positionne devant Dieu. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi et de l'autre, pas ce que tu penses de l'autre seulement. Et alors, il va utiliser des expressions très fortes, encore une fois, hein, comme Jacques. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Esprit dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques avertit. Il dit ce que je suis en train de vous dire. Ça a des conséquences, votre réaction à ce que je vous dis a des conséquences sur votre relation directe avec Dieu. Directe. Votre façon de réagir à vos désirs et à vos passions va vous positionner par rapport à Dieu. Si vous vous laissez diriger par vos passions mauvaises, si vous vous laissez diriger par la convoitise de la chair, je veux ceci pour moi, je veux cela pour moi, je veux l'autre soit détruit, je veux la tension avec l'autre parce que je l'aime pas, alors il dit vous êtes adultère. Pourquoi adultère ? Pourquoi ce terme très fort ? Pourquoi ce terme semble rien avoir avec la tension entre deux personnes ? Il dit adultère. Adultère, normalement, c'est quelqu'un qui trompe sa femme. C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à son premier engagement de mariage. Eh bien, il décrivait un petit peu, il dit « L'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. » Donc il dit, et ça rejoint notre Seigneur Jésus encore une fois, donc là, un beau parallèle. « Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, le dieu de l'argent, le dieu de la convoitise. Tu ne peux pas te balader dans le monde de la convoitise charnelle, vouloir tout posséder, tout désirer et dire « moi je suis Jésus ». Ce n'est pas possible. La parole de Dieu dit « ce n'est pas possible ». De toute façon, à un moment ou à un autre, tu devras négliger l'autre. Et en général, si tu convoites et tu veux toutes les choses matérielles qui t'entourent, ou tu veux l'argent, eh bien, tu vas négliger Dieu. D'où le terme adultère. Parce qu'il dit, tu trompes ton engagement envers Dieu. Et c'est les prophètes de l'Ancien Testament qui, très souvent, vont utiliser cette expression en parlant du peuple d'Israël. Vous êtes adultère, vous vous êtes prostitué avec les dieux étrangers. Parce que Jacques est en train de nous rappeler que envers Dieu, nous avons une alliance. Lorsqu'on baptise des personnes, lorsqu'on accompagne des personnes dans leur marche en Jésus-Christ, on leur demande deux choses. La première, c'est leur confession de leur péché. Est-ce qu'ils ont reconnu qu'ils ont accepté le sacrifice de Jésus pour leur péché ? Est-ce qu'ils ont confessé leur péché ? Est-ce qu'ils ont reconnu que Jésus-Christ est mort pour leur péché et qu'ils avaient besoin du pardon ? Ça, c'est la première grande chose qu'on va leur demander. Est-ce qu'ils croient que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'aujourd'hui ils sont pardonnés ? Mais la deuxième chose, et je ne baptiserai pas quelqu'un tant qu'on ne sera pas dans ce chemin, c'est est-ce qu'elle a décidé de suivre Jésus comme son Seigneur ? Les deux vont de pair. Notre ami Jean le Baptiste dira que quand on vient à Jésus, quand on vient au Seigneur pour la repentance, nous devons produire le fruit de la repentance. Nous devons montrer par nos actions que nous changeons de maître. Eh bien, un chrétien, et on aime bien dire cette expression, Jésus est son sauveur et Jésus est son Seigneur. Mais c'est une alliance. C'est un engagement qu'on a pris envers Jésus, envers le Seigneur. On a dit, Seigneur, désormais, c'est toi mon chef, c'est toi mon maître. Donc, à chaque fois que je me laisse conduire par mon passion et mes désirs, ben, je transgresse cette alliance. Et le Seigneur dit, attention, attention, devant Dieu, c'est comme un adultère que de laisser un autre Dieu prendre la place dans ton cœur. L'amour du monde est haine contre Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Donc Jacques veut nous positionner en nous faisant comprendre que devant Dieu, prendre ce chemin de la passion, prendre ce chemin des mauvais désirs, prendre ce chemin des désirs charnels, c'est se faire ennemi de Dieu. Et il va donner un élément qui va expliquer aussi cela. Autant l'Ancien Testament, Dieu avait choisi le peuple d'Israël, Dieu l'avait établi comme son peuple choisi, il avait fait une alliance avec lui. Autant nous, en tant qu'Église, Dieu nous a choisis et il a mis en nous son esprit, qui sont le gage de notre héritage, qui est une alliance, qui est la preuve de notre alliance avec Dieu. Et il dit, verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. » Et là, il va commencer à introduire la solution. Comment faire, Seigneur ? Oui, je comprends que c'est mauvais de se mettre en tension avec les frères et sœurs. C'est mauvais de s'être en tension avec mon conjoint. C'est mauvais de se mettre en tension avec mes collègues. Mais comment faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que mes passions ne soient pas les maîtres de mon cœur, Seigneur ? Quand la situation arrive, quand je suis blessé, quand je suis attaqué, c'est plus fort que moi, je me mets en colère. C'est plus fort que moi, je réponds virulemment. C'est plus fort que moi, je dois être méchant avec l'autre. Et Dieu le sait. Et Dieu le sait. Dieu sait que nous sommes fragiles. Qui a cette attitude lorsqu'on l'attaque de lui remercier ? Non, personne. On te dit une très mauvaise phrase, tu fais « merci beaucoup, c'est très gentil. Je... » Ruben, tu es vraiment un mauvais collaborateur. Ah, gloire à Dieu. Non, personne. Personne, j'ai envie d'attaquer. Et toi, tu t'es regardé, c'est plutôt ça qu'on va dire, hein, n'est-ce pas ? Bah toi alors, c'est encore pire, toi. C'est plutôt ça. Hein. Notre réaction. Et j'aimerais vous rassurer, vous êtes normal si vous réagissez comme ça. Mais en tant que chrétiens, nous ne voulons pas rester dans cette réaction. Nous voulons voir ce que Dieu nous propose. Pourquoi ? Je vous rappelle au chapitre 3. Parce que nous construisons quelque chose. Nous construisons un royaume. Nous construisons l'Église de Jésus. Nous construisons un espace où le règne de Dieu agit et transforme les vies. Nous construisons un espace où le monde peut venir et être transformé, être libéré, être pardonné. Un espace où Jésus règne. Et l'Église est le seul lieu comme ça. Et quand je dis l'Église, c'est pas juste le local, c'est les personnes qui se réunissent autour de Jésus. Nous construisons le règne de Jésus, le royaume de Dieu sur cette terre, à travers nos attitudes, nos actions, nos paroles, et à travers Jésus-Christ au centre. Eh bien, voilà la solution que, au verset 7, que Jacques vous propose et me propose. Comment faire pour passer tout cela ? Comment faire face à nos tensions ? Soumettez-vous donc à Dieu. Première attitude, quelqu'un t'attaque, quelqu'un parle de mal de toi. Tu viens d'avoir un vent de quelque chose que des gens disent de toi. Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Quelqu'un me parle, oh, en fait, il y a telle personne qui vient de dire ça sur toi. Première attitude, ne laissons pas notre cœur réagir tout de suite, soumettons-nous à Dieu. Seigneur, tu as entendu ce que cette personne dit de moi, je veux réagir en fonction de ce que toi, tu veux. Première réaction, c'est mon Dieu qui est le plus important. C'est Jésus-Christ qui est le plus important. Si nous parlons de Jésus au centre, tout ce que nous vivons, nous voulons le vivre avec lui. Seigneur Jésus, tu entends comment ces gens me parlent. Tu entends comment ce chef se comporte très mal avec moi chaque jour. Tu entends comment ce collègue est en train de malmener ma réputation. Seigneur, tu entends comment ce frère, cette sœur m'agace. Je me soumets à toi avant tout. Je veux que ce soit toi qui inspire ma réaction. Seigneur, tu es mon chef. Voilà la première réaction. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Deuxième attitude, deuxième réaction. En nous approchant de Dieu, le diable n'est pas content et il va envoyer, donc Éphésiens chapitre 6 dit qu'il envoie des traits enflammés. Hein. Il envoie des traits enflammés du malin. Et c'est l'accusateur. Alors, il est l'accusateur de nous, vis-à-vis de Dieu, mais il peut être aussi l'accusateur des autres. Hein. Ah, tu as vu, Ruben, hein, tu as vu comment il a parlé de toi, celui-là ? Mais réponds-lui violemment ! Réagis comme il faut ! Quel mépris, ce qu'il te dit ! Et tu vas passer pour quoi si tu réagis pas, là ? Résistez au diable, ne laissez pas les paroles du diable agir dans votre cœur. Vous connaissez le diable, vous connaissez son jeu, il est destructeur, il est menteur et père du mensonge. Voilà ce qui est dit du diable. Identifions-le. Repérons-le. Jésus veut construire l'Église. Le diable veut la détruire. Vous savez ça ou pas? Tout ce qui contribue à la destruction de l'Église provient du diable et de nos mauvais désirs. Tout ce qui construit, tout ce qui détruit les relations provient du diable. Tout ce qui détruit un couple, le diable s'en réjouit et est content quand un couple est en tension permanente, ne se parle plus, n'arrive même plus à partir en vacances ensemble, n'arrive même plus à discuter de l'éducation des enfants, des projets ensemble. Le diable se réjouit, c'est lui. Résistez-lui. Voyez son jeu. Identifiez l'ennemi. Reconnaissez que cela ne vient pas de vous. Et j'ai vu de nombreux couples, les amis, se restaurer parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas que eux en jeu. Il y a deux autres personnes dans le couple qui influencent. Il y a Jésus-Christ, mais aussi le diable, qui veut inspirer des mauvais esprits, qui veut inspirer des mauvaises idées, qui veut inspirer des mauvaises attitudes. Et c'est ce qui va se passer avec... C'est très intéressant, hein, vous vous rappelez, avec Jésus et Pierre, après que Pierre ait fait cette très belle proclamation sur ce que Jésus est, tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui devait nous sauver, le Messie. Juste après, quand Jésus dit qu'il va mourir, Pierre vient prendre Jésus à part, hein, il est dit, hein, il prend Jésus à part. Alors, franchement, pour le reprendre. faut pas raconter ça, Jésus, tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Qu'est-ce que Jésus répond ? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles du Seigneur. Il reconnaît en Pierre l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Mais il reconnaît aussi quand c'est l'Esprit du diable qui agit en Pierre. Eh bien, les amis, je ne pense pas dire trop quand parfois, nous, dans nos relations, nous pouvons être inspirés par l'Esprit du diable. Alors oui, nous ne sommes pas possédés, oui, nous appartenons à Jésus-Christ, mais parfois, nous pouvons laisser l'esprit du malin inspirer nos paroles, et nos frères et sœurs peuvent laisser parfois l'esprit du malin inspirer leurs paroles. Donc, ne les attaquons pas eux, mais attaquons l'esprit derrière qui les inspire. Résistez au diable, résistez à ses appels de passion. Et, gloire à Dieu, il fuira loin de vous. Même démarche. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et ça, j'aimerais vraiment vous dire que c'est une des plus belles promesses que je trouve dans la parole de Dieu. Très souvent, les gens qu'on peut accompagner, ils veulent trouver Dieu et ils sont pas sûrs si Dieu va se révéler. Mais vous vous rendez compte de cette promesse ? Approchez-vous de Dieu et vous savez ce qu'il va faire derrière ? Il va s'approcher de vous. Tout cœur, toute personne qui cherche Dieu, il va trouver Dieu. N'est-ce pas merveilleux ? Toute personne qui est en mal d'avoir le soutien de l'Éternel, eh bien, Dieu promet qu'il va le donner. Celui qui crie à l'Éternel sera sauvé. Celui qui crie au Seigneur sera sauvé. Celui qui crie à Jésus sera sauvé. Je ne sais pas ce que vous traversez. Ou peut-être que vos amis traversent. Eh bien, la parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Criez à lui et il interviendra. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Là, il nous appelle à s'humilier. Il nous appelle à reconnaître que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Il nous appelle à mettre en pratique ce que Jésus dit sur la poutre et la paille. De reconnaître que nous, avant d'attaquer la paille de l'autre, nous puissions attaquer notre poutre. Que nous puissions reconnaître que ce que Jésus dit quand on a une poutre, c'est vrai. Et je trouve que Jésus, il est formidable hein, quand même. Hein. C'est quand même une image... assez impressionnante. Donc la paille, hein, c'est la sciure, voilà. Et je sais que nous à Madagascar, notre papy avait une grande scierie, et donc on avait des copeaux de bois en tonnes et on jouait dedans. Et effectivement, quand il y en avait des tout petits qui rentraient dans l'œil, ça c'était violent. Et donc c'était tout petit, mais ça pouvait vraiment faire mal. Et là Jésus, il dit bon ben, va pas chercher cette petite paille de ton. Mais on voit à quoi ça ressemble une poutre. Hein. Donc je sais pas si Jésus il est assez pictural. Hein. Il aime bien les images et donc j'imagine toujours une personne, vous savez, qui est en train de se balader. Laisse-moi enlever ta paille. Alors que lui il a une grosse poutre dans l'œil. Il dit reconnaissez que vous avez une poutre. Revenez à Dieu. Revenez à Jésus. Laissez-le purifier votre cœur. Demandez pardon pour le péché que vous faites. Et évidemment les amis. Plus je reconnais que je suis en besoin du pardon de Dieu, plus je vais le donner à l'autre, bien sûr, bien sûr. Plus je reconnais que je suis pécheur devant Dieu, plus mon attitude va être bienveillante envers l'autre, parce que j'ai reçu grâce. C'est pour ça que Dieu a choisi Paul et Pierre, c'est parce qu'il fallait que ces gars-là, ils aient bien péché, ils aient bien trahi Jésus, et qu'ensuite, quand ils vont témoigner et reprendre les autres, eux, ils savent d'où ils viennent. Mais est-ce que vous, vous savez d'où vous venez? Ou alors est-ce que vous dites, oh, moi, je suis un bon chrétien, moi, ma vie, c'était toujours à peu près bien. Par contre, les autres, oh là là, la vie qu'ils ont eue, les autres, là. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes toutes et tous au même niveau, quelle que soit notre vie? Et c'est vrai que parfois dans nos églises, on va pas exposer évidemment nos péchés, mais je me rappelle un jour, il y avait eu un témoignage, on avait eu 3 personnes qui s'étaient fait baptiser, 3 divorcés qui avaient divorcé. Donc vous savez que les divorces, c'est toujours des drames. Hein. C'est toujours des drames, c'est jamais... écoute, tu voudrais qu'on puisse divorcer demain? D'accord, ok, vas-y, on va signer. Non. En général, il y a la guerre avant. En général, il y a la dispute absolue. En général, c'est grave, c'est dur. Et en général, c'est honteux. Et donc, on avait 3 divorcés qui ont témoigné de ce qu'ils avaient vécu. Mais ils ont témoigné aussi comment Jésus les a restaurés. Comment Jésus les a reconstruits. Il y en avait une, elle a commencé son témoignage en disant « Je me marie à 23 ans, à 24 ans, je divorce. » Boum. Comment Jésus les avait restaurés, comment Jésus les avait pardonnés, comment aujourd'hui ils vivaient une vie nouvelle. Et en sortant de ce culte, il y a une personne qui venait pour la première fois et qui dit « En fait, on est tous pareils. » Et oui, parce que parfois, on pense que les autres, eux, ils vivent des bonnes choses et nous, on est un peu plus bas. Eh bien non, on a tous besoin de la grâce de Dieu, qui que nous soyons. Donc, venons régulièrement demander pardon. Venons régulièrement purifier nos cœurs dès que nous sentons ces passions nous saisir. Venons régulièrement nous humilier devant notre Dieu. La solution face aux passions, c'est que chaque personne dans le combat se repositionne devant son Dieu et demande à Dieu de le guider. Et je vous promets que si un couple fait cela régulièrement, le Saint-Esprit les conduira et leurs tensions disparaîtront. Jacques va continuer en disant « Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. » Prenons le temps de demander pardon à Dieu. Et j'aimerais vous dire que la majorité, la très grande majorité des hommes et des femmes que Dieu a utilisés avec puissance, c'est toujours des hommes et des femmes qui ont reconnu leur misère. C'est des hommes et des femmes qui ont reconnu que sans la grâce de Dieu, ils seraient aussi mauvais, voire pires que les autres. C'est des hommes et des femmes qui ont reconnu qu'ils avaient besoin de pleurer sur leur propre sort. Je peux vous en mentionner quelques-uns. On a déjà parlé de Paul. Paul, mais vous imaginez comment il a dû se poser des questions quand Jésus l'a ouvert sur les yeux sur son propre parcours. Le gars, il était zélé pour Dieu quand il allait emprisonner les chrétiens. Il croyait qu'il faisait bien, n'est-ce pas? À fond pour Dieu. Donnez-moi une lettre et je vais vous mettre en prison tout le monde. Allez-y pour la gloire de Dieu. Et le gars, boum! En fait, tu es en train d'attaquer le Messie de l'Israël. Waouh! Pierre, quand il a dit que je mourrai pour toi, il était sincère. Je mourrai pour toi, Jésus. Oui, mais ce soir, tu vas me renier 3 fois. Mais non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il était sincère. Et en plus, vous savez, les écrits qu'on lit, ça a tourné dans les églises. Donc tout le monde savait que Pierre avait bien renié Jésus 3 fois. Ça tournait à ce moment-là, les écrits. Donc sa réputation, elle en avait pris un petit coup. Jacques, pareil, Jacques, celui qu'on lit, ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères pensaient qu'il avait besoin d'un psychiatre. Non mais si, c'est ce que Jacques pensait de Jésus. Non mais c'est un gars un peu bizarre, notre frère. Là, vous savez, l'aîné, il a un peu un petit souci. Hey, il est là-bas, ton frère. Ah, il faut le rappeler là, parce qu'il va encore nous faire une histoire là. C'était ça l'attitude de Jacques avant. Tous ces 3 hommes, Dieu les a utilisés avec puissance parce qu'ils avaient compris leur misère. Et désormais, ils comptaient plus sur leur propre force, leur propre qualité oratoire, leur propre capacité spirituelle. Ils comptaient juste sur la grâce de Dieu. Comptez-vous encore sur votre force, vous? Comptez-vous encore sur votre pédigré spirituel, sur votre origine familiale? Comptez-vous encore sur vos connaissances bibliques ou comptez-vous juste sur la grâce de Dieu? Juste sur le sacrifice de Jésus, juste sur la résurrection de Jésus, juste sur la puissance de Jésus. Ou encore vous vous appuyez sur qui vous êtes en vous-même. Humilions-nous devant Jésus-Christ. Et je vous parlerai de Martin Luther, qui a été un des plus grands artisans de la réforme protestante. Il avait compris sa misère. Il se flagellait tellement il comprenait pas comment il était pécheur et comment se pardonner. Il s'était trompé absolument. Et c'est dans l'épître aux Romains qu'il a trouvé la grâce de Jésus-Christ gratuite, 100%, absolument gratuite la grâce de Jésus. Tu n'as rien à faire, viens tel que tu es et reçois le pardon. Et à la fin, les amis, à partir du moment où nous humilions devant Jésus-Christ, à partir du moment où nous reconnaissons nos fautes et nos péchés, verset 10, à partir du moment où vous vous humiliez devant Dieu, laissez-le vous relever. Laissez-le vous élevez. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne cherchez pas à vous élever devant les hommes. Ne cherchez pas à prendre votre place devant les hommes. Jésus le fera. Jésus le fera. Qui a choisi Paul pour être l'apôtre que nous connaissons? Le grand apôtre Paul. Est-ce que c'est Paul lui-même? Vous savez, quand Paul est arrivé à témoigner à Damas, qu'est-ce que les autres frères, ils ont fait? Ils ont eu peur. Ah non, ah, c'est celui qui nous... Ah. Ils ont fui Paul. Ils ont fui. Et c'est Barnabas qui a amené Paul et qui l'a encouragé et a encouragé les frères. Qui a choisi Pierre? C'est pas Pierre. Pierre, comment il peut choisir? Il va pas dire, écoutez, moi je suis le super apôtre. Ben non, il a réuni Jésus 3 fois. C'est Jésus qui a choisi Pierre pour devenir Pierre. C'est Jésus qui a choisi Paul pour devenir Paul. C'est Jésus qui vous choisit pour devenir qui vous devez être. C'est pas vous. Moi je veux être le grand apôtre ou non. C'est Jésus qui choisit qui vous devez être. Mais il nous donne un chemin. Humilions-nous devant lui. Ne cherchons pas notre propre gloire. Vivons pour lui. On va terminer avec ces derniers versets. Ne dites pas du mal les uns des autres frères et sœurs. Et c'est intéressant, hein, on dirait qu'il se répète quand même, non? Il nous a déjà parlé de la langue au chapitre 3. Et il nous redit encore, ne dites pas du mal des uns des autres frères et sœurs. Mais c'est parce que vous savez... Tu contrôles ta langue, il dit, tu contrôles beaucoup de choses. Tu contrôles ta langue, tu contrôles beaucoup de choses. Parce qu'avec la langue, tu peux construire des gens, avec la langue, tu peux détruire des gens. Tu peux construire des gens. Combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit, quand ils ont été encouragés, ils ont dit, quand cette personne m'a encouragé, m'a dit, tu peux, j'apprécie ce que tu fais et tu en es capable, ça m'a édifié. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui m'encourageait comme ça. Les paroles peuvent faire du bien. Les paroles peuvent faire du bien. Quand Jésus était avec ses veuves, avec ses méprisés, il a dit des paroles constructives qui ont restauré, qui ont fait du bien. Et l'autre partie, malheureusement, est vraie. Nous pouvons faire du mal. D'où la volonté de Jacques de réinsister. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères. Dites du mal, le terme, c'est la notion de calomnie, la notion de faux témoignage, la notion de diffamation. Celui qui parle contre un frère, qui juge contre son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Alors, juste pour dire un petit peu, se préciser par rapport à ça, ce n'est pas la notion juste d'analyser le mal que l'autre fait, parce que le Seigneur nous encourage à avoir du discernement sur le péché des autres, hein, bien sûr. Le Seigneur nous encourage à, si une situation d'adultère est dans l'Église, si une situation de méchanceté est dans l'Église, si une situation de corruption est dans l'Église, nous avons le devoir de dénoncer cela. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est la calomnie, la diffamation. En Matthieu chapitre 18, il nous parlera hein, que si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir, n'en parle pas à tout le journal télévisé, à tout le monde avant d'aller le voir. Va le voir lui en un à un, seul à seul, n'en parle pas à tout le monde. Voilà ce qu'il dit. Nous avons à dénoncer le mal, nous avons à dénoncer les personnes qui agissent mal avec la grâce que nous aussi nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas à laisser les mauvaises choses se faire parce qu'un peu de levain peut lever toute la pâte, mais Exode 23, verset 1 dira, tu ne propageras pas de faux bruit, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Deutéronome chapitre 5, verset 20 dira, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et vous avez vu ça en Jacques 5, ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Le juge est à la porte. Donc c'est vraiment comment je réagis avec d'autres personnes sur une personne qui agit mal. Comment je réagis, comment j'en parle. Voilà un peu ce qu'il dit, et pourquoi il dit tu te portes juge ton frère parce que contre la loi et tu juges la loi, parce que la loi s'oppose à cette attitude-là. Donc voilà pourquoi il parle de ça. Nous ne sommes pas des destructeurs, nous construisons la paix. Et le seul qui a à juger en tant que législateur, quand on dit juger, c'est celui qui portera la condamnation, c'est l'Éternel. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? Merci Seigneur pour remercier le Seigneur pour ce temps de partage et de réflexion. Ma prière, c'est que nous puissions être de ceux qui construisons l'Église à travers des paroles qui font du bien. Et que, avec moi, je vous propose de tout simplement nous mettre devant notre Dieu et de mettre en pratique ce verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira l'un de vous. Je ne sais pas où vous voyez des tensions, des luttes, des conflits, des querelles, mais je vous propose d'avoir la première réaction, c'est de nous soumettre à notre Dieu. Nous positionner devant lui avant de nous positionner devant l'homme. De déposer les choses et de dire, Seigneur, ce qu'on veut, c'est ta gloire et ta volonté. Qu'on puisse vivre cela ensemble maintenant, frères et sœurs, quelles que soient les situations que vous connaissez, que ce soit vous qui le viviez ou peut-être des amis, peut-être des proches, peut-être des gens que vous connaissez, que vous appréciez, que vous aimez, et vous les voyez en tension permanente. Moi, j'étais très encouragé avec mon épouse, on accompagnait un couple, et ils étaient en tension depuis des années avec leur fils, des années. Et eux, ils étaient chrétiens, leur fils ne l'était pas. Et vraiment, on sentait les tensions, on voyait les paroles qui n'étaient plus très bienveillantes envers leur fils. Ils voyaient tout ce que leur fils faisait de mal. Et on s'est dit, mais venez, on va prier juste pour lui. On va plus le juger, on va plus condamner ce qu'il fait, on va juste se mettre devant Dieu pour prier pour lui et pour prier pour vous, que Dieu agisse dans votre cœur et vous guérisse. Alors c'était des gens qui avaient notre confiance et on avait leur confiance, donc on les a accompagnés. Et vraiment, on a pris ça à cœur, et eux, ils ont pris ça à cœur, ils ont dit, on va prier régulièrement, ils ont même appelé une autre sœur pour prier régulièrement pour cette situation, demander à Dieu d'agir, et Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle qui n'est même pas venu d'eux, mais du Fils. Le Fils lui-même a souhaité reconnecter avec ses parents en disant, écoutez, est-ce qu'on peut oublier le passé? Et on repart à zéro. Et Dieu a permis. Dieu a permis. Donc, peut-être que vous avez des gens à cœur. Peut-être que vous vous dites, Seigneur, ça fait tellement de temps que ces personnes-là, elles sont en tension. Peut-être que c'est un couple que vous connaissez. Vous savez d'où ça vient. C'est les passions. C'est les désirs charnels. Que Dieu puisse faire grâce en aidant ces personnes-là à se soumettre à lui. Peut-être que c'est vous-même. Eh bien, je vous propose de mettre en pratique ces versets. Je vous invite à courber nos têtes, à nous mettre devant notre Dieu, à entendre Jacques qui nous parle et laissons les paroles de Dieu résonner dans notre cœur maintenant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Seigneur, maintenant avec mes frères et sœurs, je me soumets à toi. De Tout-Puissant, je te prie d'inviter chaque frère, chaque sœur qui cet après-midi veut vivre la restauration de relations à avoir cette grâce de la soumission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec mes frères et sœurs, nous nous soumettons à toi et nous disons Seigneur, nous ne voulons pas notre propre volonté. Nous ne voulons pas notre propre désir. Nous ne voulons pas juste notre propre bien, mais nous voulons ta gloire dans cette relation. Et ce matin-ci, cet après-midi, chers frères, chers sœurs, peut-être que quelqu'un est en train de te dire, mais si, il faut que tu aies ta restauration à toi, il faut que tu aies victoire. Ne résiste au diable. Laisse le Seigneur être le maître de ta vie. Résiste au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, nous approchons de toi et nous croyons que tu t'approches de nous. Cet après-midi, si des frères et sœurs ont l'impression que Dieu était loin dans un domaine peut-être, eh bien prenez le temps de vous approcher de lui maintenant, et j'aimerais juste vous laisser cette promesse. En vous approchant de lui cet après-midi, il s'approche de vous. Et c'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de lui, parce qu'il est dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Peut-être que cet après-midi, des gens ont besoin d'être purifiés de leurs iniquités. Eh bien, venez à Jésus-Christ, rappelons-nous de ce sacrifice de la croix où nous pouvons être nettoyés, être purifiés, et nous voulons être consacrés à lui. Seigneur Jésus, je te demande encore de purifier les cœurs qui, cet après-midi, viennent à toi et te demande pardon. Pardon pour les passions qu'on laisse traîner, pardon pour les attitudes malsaines que nous tolérons, pardon pour les paroles mauvaises qui ne viennent pas de toi, mais tu dis qu'ils viennent de la géhenne, qui viennent de l'enfer, qui sont enflammés par le diable, comme tu le dis en Jacques 3, et nous devons nous en débarrasser au nom de Jésus-Christ cet après-midi. Nous ne voulons pas nous laisser orienter par les paroles du diable, mais nous voulons nous laisser orienter par les paroles qui construisent, des paroles de paix, des paroles d'encouragement, des paroles de grâce, des paroles de bonté. Dieu Tout-Puissant, pardonne et purifie cet après-midi pour que ton peuple te ressemble. Dieu de gloire et de miséricorde, nous venons à toi et nous reconnaissons que sans la grâce de Jésus, sans le pardon de Jésus, nous sommes misérables. Nous sommes misérables sans la grâce de Jésus. Nous avons besoin du pardon de Jésus-Christ. Mais nous reconnaissons que avec le pardon de Jésus, nous sommes restaurés et élevés. Merci Jésus-Christ, parce que quand ton peuple vient à toi, tu lui donnes la victoire. Tu restaures, tu encourages. Dieu Tout-Puissant, que cet après-midi, tous les frères et toutes les sœurs qui viennent à toi, qui demandent pardon et qui veulent vivre consacrés à toi, tu leur donnes cette grâce de comprendre ce que veut dire « tu élèves celui qui s'humilie devant toi ». Que cet après-midi, Dieu Tout-Puissant, des gens soient libérés de fardeaux qu'ils ont portés depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Que cet après-midi, parce qu'ils ont compris que cela vient de leur passion, eh bien, ils puissent être délivrés et libérés. Gloire te soit rendue, notre Dieu, notre Roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour cette célébration que nous avons pu faire aujourd'hui qui nous rappelle la résurrection de Jésus, qui nous permet d'être une nouvelle créature. Merci, notre Roi, parce que comme nous avons été crucifiés avec toi, nous sommes ressuscités avec toi pour vivre une vie nouvelle. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître. Amen.